Nous bénissons Dieu qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, d'être dans sa présence ce matin. D'être dans la présence de ce Dieu qui est notre Père et de vivre son amour. Stéphane l'a dit ce matin, c'est un culte spécial. C'est l'une des fêtes chrétiennes qui continue encore d'alimenter notre calendrier au point où nous avons même un férié qui est lié à cela. Ce qui veut dire que dans ce pays, il y a une tradition, qu'on dit tradition judéo-chrétienne, jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais pour l'instant, nous en jouissons et nous voulons marquer ce temps avec cette lecture qui a été faite dans Actes chapitre 2. C'est la Pentecôte ce matin. Et nous allons voir ensemble quelques textes qui signifient ce que c'est, mais bien plus, comment est-ce que cet événement a marqué durablement l'histoire de notre monde. Vas-y, s'il te plaît. Sur deux écrans, c'est ça. Je vous invite à réfléchir ce matin sur ce thème. La Pentecôte a été aussi l'éclosion d'une communauté nouvelle, une communauté transformée. L'accent qui est mis sur la venue de l'Esprit de Dieu a une conséquence dont nous sommes les bénéficiaires jusqu'aujourd'hui en 2023. Je vous invite à lire un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 5. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples, au moment où il les prépare à son départ terrestre. Voici des personnes qui ont vécu avec ce monsieur pendant 3 ans. Ils ont été émerveillés par la qualité de sa vie, la simplicité de son amour. Alors qu'ils prétendaient régulièrement qu'il était Dieu, ils ont été bluffés de voir que ce Dieu, homme, était simple. Simple, mais quelqu'un de profondément marqué par l'amour de Dieu, qui n'a cessé de le manifester et qui en plus avec lui, Dieu a fait des choses extraordinaires qu'ils ont vues. Ils ont vu ces choses, ils ont été témoins de ces choses, ils ont été même au bénéfice de ces choses. Et voici que Jésus va leur faire une grande annonce. Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quelque temps avant la Pentecôte, Jésus avait eu cette parole pour ses disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que celui que Dieu a promis vienne. C'est lui qui va faire ce travail de conviction dans un monde qui croit que tout va bien, finalement. On se réveille un matin et on apprend des choses horribles sur notre humanité. Je suis toujours personnellement touché de par ces nouvelles dramatiques. Au nom de l'amour perdu, ces jours-ci encore, il semble que quelqu'un est rentré dans un pavillon, a tué une femme et ses enfants au coup de couteau, dont le petit était un bébé. Comment? Et on nous dit, tout va bien. On n'a pas besoin de Dieu. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il semblerait que cette personne soit quelqu'un qui a aimé cette femme dans un passé. Alors je me pose une question. Comment quelqu'un qui a aimé quelqu'un dans un passé est capable de la tuer et de tuer les enfants de cette dernière? C'est horrible, c'est atroce. J'arrive même pas à imaginer l'atrocité que ça peut être. Voilà le vrai visage de notre monde. Ne nous y trompons pas. C'est ça le visage de notre monde. C'est pour cela que Jésus dit, quand le Saint-Esprit vient, il vous convaincra de péché. Parce que le mal est au cœur de notre humanité. Au-delà de la grâce de Dieu qui fait que le bien continue malgré tout de se voir, le mal est bien tapis et il a des couleurs très noires des fois. Très noires. De la justice, parce que ce monde a besoin de justice, de la justice de Dieu. Du jugement, on n'aime pas ce mot. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut sans qu'il y ait des conséquences. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous conscients que les actes que nous posons ont soit des avantages, soit des inconvénients. Ça fait partie de notre humanité. Mais on n'aime pas le mot jugement. Tout le monde dit que Dieu est gentil, que c'est le bon Dieu, qu'à la fin, il nous pardonnera tous. Moi, je veux bien que Dieu fasse ça. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est lui qui dit dans sa parole qu'il est juste. Il est juste. Il ne peut pas tenir l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Sinon, sa justice elle-même serait engagée. Si notre monde est un peu au reflet de Dieu, c'est ce que nous voyons. Quand quelqu'un a fait un mal atroce et qu'il est condamné, et des fois, des victimes qui savent que même ce jugement qui va être fait à la justice ne leur rendra pas l'être aimé, ils disent quand même, on souhaite que la justice passe par là, pour qu'il réponde de ses actes et qu'il soit, des fois on dit qu'il soit condamné à la hauteur du mal qu'il a fait. Et quand on pose la question, est-ce que ça vous rendra votre bien-aimé, il dit, ça ne nous le rendra pas, c'est vrai. Mais au moins, la justice sera passée par là. Et pour Dieu, on dit, non, Dieu, tu effaces tout, même si on a été ce qu'on a été. Mais justement, Dieu le fait d'une autre façon. Dieu efface notre ardoise d'une autre façon. Pas de la façon dont nous le voudrions. La façon dont nous le voulons, c'est que Dieu ne soit pas juste. Qu'il soit juste quelqu'un qui nous laisse faire et qu'à la fin, il dise, c'est pas grave. Non, Dieu n'est pas comme ça. En tout cas, selon la parole de Dieu. C'est pour ça que Christ dit qu'il vous convaincra de la justice et du jugement pour que nos yeux puissent s'ouvrir sur ce Dieu qui est juste. Et en même temps, il nous envoie le consolateur, l'esprit de vérité, qui vient pour consoler, qui vient pour guider, qui vient pour éclairer, qui vient pour apporter une bonne nouvelle, celle que Christ avait déjà annoncée. Alors voici la Pentecôte. Pentecôte, comme il a été dit dans ce texte, c'est le 50e jour après la Pâque. Et les Juifs de l'Ancien Testament avaient reçu de Dieu de célébrer ce 50e jour comme la fête de la moisson, une fête de reconnaissance à Dieu qui est un Dieu de grâce et qui fait en sorte que les humains aient de quoi se nourrir. C'est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons acquis pour évidence que tout ce que nous avons, c'est nos propres labeurs qui nous le donnent. nous en sommes tellement convaincus que quand un métro est en retard d'une minute, on dit c'est pas possible, il aurait dû être à l'heure. Parce que nous sommes rentrés dans une modernité où nous croyons que tout est acquis et tout est évident. Mais souvent, comme le disent les gens eux-mêmes, la nature nous rappelle que tout n'est pas si évident. Quand les catastrophes nous frappent et que nous cherchons à comprendre pourquoi nous avons été frappés par la catastrophe et pas les autres, alors là, on se pose des vraies questions. On aurait toujours voulu que les malheurs frappent les autres, que les catastrophes sautent notre pays et qu'ils atteignent les autres pays. Quelqu'un disait une fois, mais quand tu pries et que tu dis, Seigneur, que ce malheur saute mon pays, où veux-tu que ce malheur aille? Dans quel autre pays veux-tu qu'il aille? Tout n'est pas évident. Ne le croyons pas. C'est pour ça qu'il avait dit que chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour que tu vis, chaque bien net que tu as est une grâce de Dieu, que tu le saches ou pas. La Bible dit, car Dieu fait du bien aussi bien à ceux qui le connaissent comme à ceux qui ne le connaissent pas. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Quand la pluie tombe, bah, malheureusement, pour quelques-uns, on aurait voulu qu'elle arrose que ceux qui font le bien dans le monde. Parce que la pluie est nécessaire. Nous le vivons ici en France. Il y a certaines régions dont la nappe phréatique est au plus bas et qu'on a besoin d'eau. Quand nous ouvrons nos robinets, nous croyons que c'est une évidence. L'eau va toujours couler. Non, l'eau n'a pas toujours coulé, les bien-aimés. Il y a des endroits du monde où l'eau ne coule pas de source. C'est une grâce. Ne le croyez pas que c'est une évidence. C'est pour cela que Dieu avait donné cette fête dans l'ancienne alliance, pour que le peuple se rappelle que le Dieu du ciel et de la terre est celui qui fait en sorte que les humains aient leur bien-être à tous les niveaux, notamment le bien-être au niveau de la nourriture, faite de la moisson, faite des prémices. Et il venait ce 50e jour, il se rassemblait, comme on l'a vu dans ce texte, à Jérusalem, pour remercier ce grand Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné, de ce qu'il les a bénis, de la providence divine. C'est un mot qu'on aime utiliser. C'est la providence, n'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît. Nous avons lu ce texte. Je lirai pas cette portion du texte. Je lirai la dernière portion du texte qui n'a pas été lue. Partie du verset 14. Vas-y encore, s'il te plaît. Voilà. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. C'est là ce que vous voyez et entendez. Verset 34. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel. Mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? Hommes frères, que ferons-nous ? » Puis elle leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, « Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Amen. Voilà le témoignage de ce qui s'est passé. Cette fête de Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. Dieu a honoré sa promesse. La Bible dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit aussi. Et des fois, nous pensons que Dieu n'existe pas. Dans notre siècle des Lumières, certains écrivains éloquents de grand nom ont pu dire « Dieu est mort ». Vous savez, vous pouvez proclamer 10 000 fois que Dieu est mort. Ça ne change pas le fait que Dieu est vivant. Parce que Dieu est au-dessus de notre contingentement. C'est-à-dire Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons dire de lui. Heureusement qu'il ne prend pas tous nos mots à la lettre. Heureusement que des fois, il dit, oula, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent. Parce que nous, on est susceptibles. Si quelqu'un nous dit des choses aussi mauvaises sur nous, s'il met notre confiance en doute, s'il met notre identité en doute, s'il met notre honnêteté en doute, nous sommes tout de suite un peu pas bien. Et nous voulons tout de suite réagir et parfois corriger. Si Dieu devait corriger à chaque fois nos écarts de langage, nos façons de penser de lui, oh, on serait bien malheureux. Heureusement que c'est ton Père qui a de la patience. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Heureusement d'ailleurs. Et voilà que ce jour-là, Dieu fait cela. Ce qu'il a promis, dont un certain prophète Joël dans l'Ancien Testament avait déjà parlé il y a bien des centaines d'années avant la venue de Jésus. L'apôtre Pierre dit, c'est ce que prophétisait Joël qui se manifeste aujourd'hui. Parce que le texte dit que ce jour-là, vu que c'était un pèlerinage, tous les juifs, prosélytes et les gens du monde entier venaient à Jérusalem. C'était un pèlerinage, on y allait tous. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grands mouvements comme ça où les jeunes se retrouvent dans des endroits pour célébrer la fête de la musique. Et les gens viennent de partout l'Europe. Et parfois, c'est énorme, des rassemblements de milliers de personnes. Chacun avec sa tente. Mais ils sont motivés par une seule passion, la musique. Ils y viennent. Chacun avec son moyen pour y venir. Certains par bus, certains par train, par avion. Et des fois, il y en a de cocasses. Quand ils vous racontent comment ils y sont arrivés, tu dis, ouah, tu as fait tout ça pour être là. Il dit, oui, il fallait que je sois là. Je voulais pas manquer cet événement. Et la Pentecôte était comme ça. Les gens venaient de partout. Et le texte nous dit, toutes les langages, toutes les peuplades qui étaient là, on a au moins 16 représentations de peuplades qui étaient là, de tout le monde entier, en partant de l'Asie mineure, de l'Europe, jusqu'en Afrique. Ils sont tous là. Arabes, sémites, africains, occidentaux, ils sont tous représentés là ce jour de la Pentecôte. Jérusalem est plein de monde à craquer. Et c'est là que Dieu décide de parler pour toucher tous les peuples qui sont là. Parce qu'il sait que s'il le fait, en repartant chez eux, ils repartiront tous avec une bonne nouvelle. Et c'est c'est le propos. Quelqu'un a dit dans ce paragraphe, il dit, comment se fait-il que des gens qui parlent galiléen, que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle, parler de quoi? Des bienfaits de Dieu. Waouh! Imaginez-vous la scène. Nous sommes rassemblés avec toutes les langues. Vous savez, on dit en Afrique, il y a plus de 2000 langues. En Afrique, il y a plus de 2000 langues. Imaginez-vous que ces 2000 langues soient là, dans un endroit, et que chacun de ces 2000 locuteurs de sa langue entend distinctement ce que je dis là en français dans sa langue maternelle. C'est ce qui s'est passé. Et les gens disent, non, mais là, on rêve, là, il y a quelque chose qui va pas. Ce type, il parle français, mais je l'entends en allemand, je l'entends en japonais, je l'entends en mandarin, je l'entends en yakuba, je l'entends en swahili. Comment cela peut-il se faire? Oui, parce que Dieu avait décidé ce jour-là de parler à toutes les langues du monde. Alléluia. La Bible est un livre de témoignages vrais et véridiques. Ce jour-là, Dieu a décidé de s'adresser à tous les hommes. Vous savez, Dieu a décidé cela parce qu'il veut changer le cœur des hommes. Il dit, j'ai un projet, c'est de changer vos cœurs de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire, vos cœurs sont tellement durs. Même quand vous dites vous aimez, vous êtes capable de cet amour de sortir le poison. Voici le drame de cette semaine. Un homme qui a aimé une femme dans un passé plus ou moins lointain, l'a tué, a tué ses enfants. Comment on peut faire ça? C'est ça que Dieu veut changer. On n'est pas là dans une religion stérile. On est là pour dire aux gens, Dieu veut donner une opportunité de changer les cœurs mauvais que nous avons dans nos poitrines. Dieu veut donner l'opportunité de changer nos pensées mauvaises, nos caractères de cochon. Dieu veut les changer. Et on dit, on n'en a pas besoin. Non, on en a besoin, les bien-aimés. On en a besoin. On a besoin que Dieu fasse cette effusion de son esprit et que cette effusion nous, quelqu'un a dit, et j'ai aimé cette image. Il dit, nous avons besoin, comme quand on prend un bol d'eau chaude et qu'on met une tisane dedans, nous avons besoin de laisser cette tisane faire quoi? Infuser. Pour que toute cette eau soit remplie de cette bonne saveur de cette tisane. Exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Nous avons besoin de laisser Dieu s'infuser en nous, les bien-aimés. C'est le sens de la Pentecôte. Dieu veut se rendre disponible pour nous infuser, pour que nous soyons à son image, des hommes et des femmes remplis de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Et ce matin, ces questions sont pour toi. Et pour moi, bien sûr, Stéphane l'a dit, moi j'ai eu le temps de me les poser dans ma tête et jusque-là, voilà, j'y médite encore. Où en es-tu en tant que personne humaine? Si tu es, vous savez, le chrétien, c'est pas juste celui qui vient à l'église. S'il vient à l'église, c'est déjà bien. Mais selon la définition biblique, selon Dieu, le chrétien, c'est au-delà de venir à l'église. C'est d'avoir reconnu à un moment donné, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans cet évangile de Jean, que tu es une pécheresse, que tu es un pécheur. Ça veut dire que malgré toute ta bonne volonté, tu ne fais pas toujours ce qui est bien. Ne serait-ce que dans tes pensées. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu es un pécheur, ça veut dire que tu es une pécheresse comme moi. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, parce que l'apôtre Paul, il a essayé dans l'épître aux Romains, chapitre 7, chapitre 8, il dit, j'ai essayé de faire le bien, mais à chaque fois, il y a des fois, le bien que je veux faire, c'est pas celui-là que je fais, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui qui apparaît, alors que je vais voulu faire le bien. Il dit, j'ai essayé et essayé à nouveau, mais ça m'embête ce truc. Ça me rend prisonnier. Des fois, j'ai de bonnes pensées pour quelqu'un, et puis après, c'est le mal que je ne veux pas faire que je lui fais. Il dit, malheur à moi, triste que je suis. Qui me délivrera, qui me changera pour que justement, je sois un homme plus de bien que de mal. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est pour cela que le Christ est rentré dans le monde, bien-aimé. Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu nous offre la liberté de changer de camp. De passer du camp des pécheurs au camp des justifiés. Alléluia. De ceux qui sont désormais poussés, envahis, guidés par l'amour de Dieu. Amen. Alors, cette communauté-là, cet enfant de Dieu-là, la question c'était, où en es-tu en tant qu'être humain, où en es-tu en tant que chrétien, chrétienne, où en es-tu en tant que Église, où en sommes-nous en tant qu'Église? Le mot kérigma, c'est un mot grec qui veut dire juste proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Proclamation de la bonne nouvelle. Cette proclamation n'était pas juste un fait de l'oralité. Vous savez, proclamer souvent, ça prend le sens de dire quelque chose. Non. Proclamer, c'est pas que dire. C'est vivre, c'est être. N'est-ce pas? Quelqu'un donnait un conseil à une autre personne et la personne lui a dit, tu sais, si le conseil que tu me donnes, si toi-même tu le faisais, ça serait peut-être plus parlant pour moi parce que tu me dis quelque chose que tu ne vis pas. J'ai un peu de mal à voir si ça marche ou pas, parce que si ça marchait, tu l'aurais fait toi. Et puis la personne lui dit, ouais, mais fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est facile de dire ça. Et Jésus a dit, non seulement faites ce que je vous dis, mais regardez, moi-même je le fais. Quand Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, lui-même, il a donné sa vie pour nous. Il dit, personne ne me prend cette vie. Je l'ai donnée parce que c'était important pour moi, pour que mes frères, les êtres humains, soient sauvés. Il dit que l'amour se construit dans la souffrance. Et il a vécu cela. Il a été accusé à tort, innocent qu'il était. La Bible dit comme un mouton qui ne peut pas se défendre, on l'a mené à l'abattoir, alors qu'il aurait pu se défendre parce qu'il est Dieu. Et devant ce grand gouverneur qui lui disait, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné pour cet instant. Parce qu'à l'heure où nous sommes, des myriades d'anges sont postés dans le ciel et sont prêts à intervenir à un seul signal de ma voix. Mais c'est pour cette heure que je suis venu, je ne donnerai aucun signal. Je vais accepter de mourir comme un maudit pour sauver les hommes. Vous savez, nous, si quelqu'un est en train de m'agresser et que je sais que j'ai le pouvoir de le détruire, ah bah, il va déguster, hein, celui qui m'agresse. Et Jésus dit, non, il va pas déguster parce que c'est pour cette heure que je suis venu. Et il a été traité comme un vulgaire bandit. Il a eu cette phrase quand même qui reste un écho fort. Il dit, et pourtant j'étais au milieu de vous chaque jour. Je n'ai volé personne, je n'ai agressé personne, je n'ai menti à personne, j'ai passé mon temps à faire que du bien, et vous venez m'arrêter comme un bandit. Allez-y. Allez-y. C'est ça notre humanité. Ceux qui font le bien, on les prend pour des bandits. Et Jésus a donné sa vie pour cela, bien-aimé. C'est ça la proclamation. Vas-y, mon frère. Ces éléments de proclamation, les chrétiens de cette première église l'ont compris. Dans la manifestation de leur rassemblement. Proclamer, c'est vivre en église. Et il avait compris. Cette petite église dans leur maison. Ils ont compris et qu'ils voulaient, pousser par l'esprit, dire aux gens que c'est bien d'accepter Jésus. Et dans leur maison, ils invitaient des amis. Ils invitaient des parents. Ils invitaient des compagnons de synagogue. Ils invitaient des voisins, des collègues. Et ils s'organisaient pour cela. Le changement de leur vie aussi était kérigmatique, c'est-à-dire la façon dont leur vie avait été bouleversée par cette vision nouvelle de Jésus-Christ proclamait qu'ils avaient reçu la bonne nouvelle. Eux-mêmes, ils étaient en quelque sorte un peu une bonne nouvelle. Leur vie disait, regardez, c'est vrai, Dieu change les cœurs. Il a changé le mien. Je suis pas encore parfait, mais entre hier et le jour où je suis maintenant chrétien, je peux te dire, il y a un océan qui est passé par là. Dieu m'a tellement changé en bien. Et j'aimerais qu'il continue tellement de le faire. Kérigmatique par la qualité de leur vie en communauté. Ils avaient compris que les êtres humains sont pas des êtres isolés. L'humain vit en relation. Nous sommes par définition des êtres relationnels. Parce que nous le tenons de notre Père. La Bible dit que Dieu est un Dieu trinitaire. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont en communion les trois. Et c'est ce que nous sommes. Et ils ont compris que c'est ensemble que nous devons démontrer que la bonne nouvelle est vraie. Regardez, nous sommes capables, malgré nos origines différentes, malgré nos situations sociales différentes, nous sommes capables de faire communauté par l'action du Saint-Esprit. Et c'est vrai. Et dans ce premier siècle, c'était énorme ce qu'ils vivaient. Il y avait des esclaves qui étaient des chrétiens, il y avait des hommes d'affaires qui étaient des chrétiens, il y avait des femmes libres, des femmes esclaves, mais dans la communauté chrétienne, il n'y avait ni esclaves, ni homme libre, ils étaient tous égaux. Et c'était un choc pour la société de voir que des gens de conditions sociales différentes vivaient ensemble comme cela. Ils s'aimaient. Ça les a. C'était une bonne nouvelle. Et ils ne se contentaient pas juste d'être l'église de Jérusalem. Ils avaient à cœur que tout le monde entier entende cette bonne nouvelle. Donc, même étant dans cette localité, ils apportaient leur contribution pour que cet évangile atteigne d'autres régions. Et même au-delà des régions. Et même au-delà des régions. Et même au-delà des régions. Voilà ce que la Pentecôte a fait. Pendant 3 siècles, pendant 300 ans, ce petit événement qui a eu lieu en Actes chapitre 2 a bouleversé le monde entier. De Jérusalem jusqu'à Rome. Mais en bien, ça, c'est comme s'il y avait une onde qui s'est propagée comme ça de l'amour de Dieu, d'une bonne odeur qui touchait les hommes et qui changeait de vie, qui changeait de communauté, qui changeait des familles. Oh Jésus, que j'aurais voulu que la famille de cette femme et de ce monsieur soit chrétien pour que ce drame n'arrive pas. Que j'aurais voulu qu'il soit chrétien pour que ce drame n'arrive pas. Que j'aurais voulu qu'il soit chrétien pour que ce drame n'arrive pas. Mais nous ne sommes pas à l'abri, parce que même aujourd'hui, dans des familles chrétiennes, ce type de drame arrive aussi, malheureusement. Malheureusement, pourquoi? Parce que nous ne laissons plus l'Esprit de Dieu, nous. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Vas-y, s'il te plaît. Les foyers chrétiens sont la stratégie de Dieu. Faut pas s'y tromper. Dieu est l'initiateur de la famille. La famille avec un grand F. Et les foyers, là où nous vivons, sont stratégiques entre les mains de Dieu. Pour manifester l'amour de Dieu, bien-aimé. Pour manifester l'amour de Dieu. Ces foyers-là, c'est dans ces foyers que Dieu veut que nous vivions ces choses, par l'Esprit de Dieu. Pour montrer la bonne nouvelle. L'ennemi le sait tellement bien qu'il a mis à mal les couples chrétiens, qu'il a mis à mal les familles chrétiennes. Parce qu'il sait que si là, ce lieu stratégique de Dieu, vous savez, dans une guerre, quand les lieux stratégiques sont touchés, bah, c'est des défaites. C'est des défaites. Dans ce pourrissement qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, avec des hommes et des femmes à la rue, des enfants à la rue, c'est un déchirement de cœur. On nous dit que dans cette folie, une nation que je tairai a décidé de frapper tous les lieux stratégiques d'une autre nation. Et que l'un des responsables de cette nation a dit, je vais réduire ce pays pour qu'il revienne au 18e siècle. Et qu'ils ont pris la décision de frapper tous les lieux stratégiques énergétiques en eau et en électricité pour que la population soit encore dans la misère. C'est ce que l'ennemi fait, hein? Il sait. Il sait que le foyer et les familles chrétiennes sont des lieux stratégiques. Plus il frappe là, plus l'écho négatif est immense dans la société. Certains qui s'élèvent contre les valeurs chrétiennes disent, regardez, même les chrétiens sont plus capables de tenir leurs propres valeurs. Même les chrétiens sont plus capables de tenir leurs propres valeurs. Si eux, ils ne sont pas capables de tenir leurs propres valeurs, pourquoi vous nous demandez à nous de vivre ces valeurs-là? Ironie du sort. Bien-aimés, la Pentecôte est une occasion de laisser Dieu revenir nous visiter dans nos foyers. Revenir infuser nos foyers, revenir infuser nos relations mari-femme, venir infuser nos relations parents-enfants, venir infuser nos relations de notre fraternité ou de notre sorologie. Si vous avez des frères et des sœurs biologiques, laissez Dieu infuser vos relations. Car c'est là aussi, famille. Ces gens-là, du premier siècle, l'avaient compris. Poussé par l'Esprit de Dieu, ils avaient compris que leur famille, leur foyer, était un lieu stratégique pour Dieu. Ils ont laissé Dieu faire. Et 3 siècles durant, ils ont... Ah! Terminons avec nous individuellement. Vas-y, frère. encore. Et pour nous, alors, de façon individuelle, cette éclosion de cette nouvelle communauté transformée, comment se manifeste-t-elle? Vas-y encore. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dieu, ah mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, toi qui es là dans cette salle de culte avec moi, Dieu a un projet, Dieu a un projet de bonheur. Il aimerait tellement que nous soyons de belles personnes. Il dit qu'il a donné son esprit pour que nous puissions être impactés par cet esprit, parce que nous aurions déjà reconnu que nous sommes pécheurs et que nous aurions demandé à Dieu de nous sauver comme ces hommes dans Actes chapitre 2. Que ferions-nous? Et Pierre dit, répentez-vous, ça veut dire, reconnaissez que vous êtes des pécheurs et demandez à Dieu que vous voulez changer de direction. Vous savez, la conversion, c'est, je suis en train d'aller dans le mur là, en face. Je suis en train d'aller dans le mur. Et tout à coup, il y a une lumière qui me dit, tu es dans la mauvaise direction. Change de direction. Tu dis, oula, j'avais même pas vu que j'allais dans le mur. Merci Seigneur. Et du coup, tu changes de direction. C'est ça la conversion. Et tu es sur la bonne voie désormais. Et sur cette bonne voie-là, Dieu dit, en plus, je te fais des cadeaux. C'est le fruit de mon esprit. Et ces fruits-là, c'est quoi? Vas-y, s'il te plaît. C'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. Dieu veut t'investir de plus en plus. En communion avec lui, il veut t'investir de l'amour. Il veut t'investir de la joie. Il veut t'investir de la paix. Pour que toi-même, tu sois capable de donner de l'amour. Pour que toi-même, tu sois capable de transmettre cette joie. Pour que tu sois capable d'être une femme, un homme de paix. Ah, quel beau programme. De la patience, de l'amabilité, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, la maîtrise de soi. Moi, je veux ce programme-là, Seigneur. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Mais je veux aussi cela pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Aspire, la Bible dit aspirer à ces choses. Demande-nous à Dieu avec force et conviction, je veux ressembler à ce portrait-là. Car il est beau, non seulement pour moi, mais il va être aussi bien pour les gens que j'aime. Parce que ça va les impacter positivement. Ah, c'est important que les gens que nous aimons, nous soyons des personnes qui fassions du bien aux gens que nous aimons. Et si c'est le cas, même ceux qui nous veulent du mal, nous serons capables alors de leur faire du bien. Que Dieu nous aide. Alors ce matin, bien-aimé, regarde à la façon dont tu te conduis dans la maison de Dieu, qui est l'Église, à la façon dont tu vis ta vie chrétienne, si tu l'es, si tu ne l'es pas, la Bible dit qu'il n'est pas tard, Dieu te cherche aussi, il veut que tu te tournes vers lui, et demande-toi, est-ce que tu as renoncé au péché? Vous voyez, des fois, on arrive à faire un mal et qu'après on regrette, on dit c'est pas ce que j'avais voulu dire. Mais c'est trop tard, la parole est sortie et ça pique. C'est pas ce que j'avais voulu faire et trop tard, le geste, le comportement, il est parti et ça blesse. C'est pas ce que j'avais voulu penser, mais c'est trop tard, on a cultivé cette pensée, elle est là et ça nous souille. As-tu renoncé? L'Esprit de Dieu est venu pour nous aider à faire quoi? À nous convaincre de péché. Il est venu pour nous aider. On a une aide que Dieu nous donne. Profitons-en. Que le Seigneur nous donne de répondre positivement. Que son Esprit soit avec chacun de nous. Que sa grâce soit avec nous. Amen.
Donc bien sûr le pasteur pour s'être laissé guider par Dieu pour ce message qui nous a, en tout cas pour moi, qui m'a beaucoup parlé. vraiment que l'amour de Dieu puisse nous envahir, puisse nous comprendre en fait comment Dieu nous aime et que son amour, c'est un amour qui est en proie au changement. Parce que nous, lorsque nous regardons à ce monde et à ces faits divers, en fait, on voit que nous avons raison de compter uniquement sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment transformer nos vies, quoi.